Salut les smarts, salut les marks, vous écoutez Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on regarde, on résume, on analyse les shows de la WWE, mais pas que, puisque aujourd'hui, c'est la baston du mercredi, deuxième épisode, deuxième numéro de notre nouveau show, où on parle bien sûr de la bagarre des mercredis qui oppose NXT à Dynamite de All Elite Wrestling. Quand je dis on, c'est moi aux commandes de cet épisode, l'amiral Armbar, et je suis accompagné de mon compagnon NJPW des Wrestling Kingdom Ringside, Genki Deska.
De Descadelle, c'est pas ça qu'on
dit. Parfait, c'est parfait. Génial.
Ça va.
Ouais, ça va, cool.
Ouais, la pêche, j'ai sorti le poids américain, la matraque télescopique, j'ai ma Guinness en main, on est bien parti.
Parfait, Guinness en main à 4h30 de l'après-midi, tout va bien, c'est le confinement. On a le droit, le bar à la maison, c'est n'importe quelle heure.
On est vendredi.
Eh ouais, c'est vendredi, c'est le week-end, quasiment, on s'en fout, on sait même plus quel jour on est. Et on a bien avec nous le trio gagnant, le trio fringant, avec le Luchasaurus des podcasts, le tonton Chris. Salut Chris.
Yes, salut admirable, amiral, armbar, triple A.
Triple A.
Et mon ignore Ringside, ça fait plaisir. Voilà.
Toujours un plaisir, tonton.
Préparez la trousse de secours aujourd'hui. C'est AEW versus NXT. C'est la baston du mercredi.
Ah, quel fabuleux catchline, quel fabuleux sponsor. on pourrait en faire un petit peu. C'est la baston du mercredi, puisque du coup, comme on disait, on va parler NXT contre AEW. La semaine dernière, c'était un match qui était à sens unique, On avait été tous à dire que c'était AEW qui avait l'ascendant, puisque NXT, ça avait été que des packages, que des reportages, des interviews pour mettre en valeur la rivalité Gargano Ciampa, Rhea Ripley et Finn Balor. Cette semaine, on change la formule, puisque du coup, c'est le retour des matchs et beaucoup de matchs du côté NXT. Alors déjà, petit point sur les Audimat, puisque du coup, c'est la baston du mercredi pour l'Audimat. La semaine dernière, ça avait été plié. AEW avait quasiment fait le double d'NXT. Cette semaine, c'est un peu plus rééquilibré. On est revenu quasiment à la normale, on va dire. NXT, de leur côté, ils ont fait 670 000 spectateurs. Et du côté de Dynamite, on a 820 000. C'est quasiment assez faible, mais c'est quasiment ce qu'on a en moyenne depuis deux mois, depuis le début de l'année.
C'est vrai.
Donc voilà, donc pas vraiment de méga progression suite au confinement. Les gens sont pas plus à regarder ce qui se passe du côté du cage mercredi. Pas de baisse non plus. Dans tous les cas, on a bien vu que la semaine dernière, NXT avait été lourdement sanctionné par tout le monde, par nous et par le public américain. Y a pas de match, du coup, on regarde pas. Et là, ils ont appris de leur erreur puisque c'est l'inverse. On va voir quasiment que des matchs. Et on va commencer du coup par le show jaune de la WWE NXT, toujours en confinement, toujours sans public du Performance Center, donc en Floride. Et on va avoir au commentaire Tom Phillips avec Panay Jamal Guinness, pas Mauro Ronello, pas Beth Phoenix, mais Tom Byron. Donc du coup, une ancienne équipe qui revient au commentaire d'NXT. Et on attaque direct avec un match Austin Theory, donc All Day Real Superstar, contre Tyler Breeze. Puisqu'il y a quelques semaines, il s'était un peu chauffé dans une interview backstage au Performance Center, justement, où Austin Theory était venu passer d'abord de la pommade à Tyler Breeze et pour finalement le vanner et le clasher. Ça aboutit à ce match. Donc, il y aura eu beaucoup de taunts, beaucoup de trash talk de la part d'Austin Theory dans le ring, qu'on entend très bien puisqu'il n'y a aucun bruit. Si ce n'est l'arbitre et les deux éditeurs. Donc aussi une théorie qui dira à Tyler Breeze plusieurs fois que ça fait 10 ans que t'es là, que t'es arrivé et t'as rien foutu, c'est moi le futur, toi t'es le passé. Il ira même jusqu'à la fin du match où il dominera physiquement Tyler Breeze à récupérer son téléphone, le téléphone de Tyler Breeze qui était resté sur les abords du ring, pour se filmer, pour dire « Ouais, mon cher Tyler, je veux que tu te souviennes et que t'as un souvenir de ce qui va se passer de ma victoire contre toi. » Sauf que voilà, forcément, abus de confiance, c'est tout ce qu'il fallait pour que Tyler Breeze passe son beauty shot pour la victoire. Donc, moi, j'ai cru, avant la fin du match, que c'était Tyler Breeze qui allait perdre, qui allait, mettre over aussi une théorie. Mais non, j'étais surpris de la victoire de Tyler Breeze malgré tout. Donc, Ringside, toi, comment tu as vu ce match? Est-ce que toi aussi, tu voyais Tyler Breeze perdre?
Ah, moi, j'ai des gros espoirs en Austin Theory, mais...
Ah, tu kiffes, toi.
Ouais. Maintenant, bon, moi, je l'ai vu catcher à la Evolve.
Ouais.
Avant, et il était assez impressionnant. Là, depuis qu'il arrive à NXT, il n'a pas forcément toujours le bon rôle. Donc là, il a joué la carte du jeune qui s'y est cru. Hein. On sait comment c'est les jeunes de nos jours. Mais bah, tant pis pour sa gueule, il s'est pris la fessée. Bon, bah, il est en gestation, on va dire. Il s'applique à suivre les règles de la WWE. Là, il joue l'espèce de heel arrogant. C'est pas toujours très bien joué. Ça fonctionne pas trop parce qu'il n'y a pas de public hein, aussi. Ça, c'est assez difficile de faire quelque chose de vraiment exceptionnel ce soir. Je lui conseille d'aller chez le chauffeur raser la barbe hein, parce que ça lui va pas du tout.
Non.
Et effectivement, je pensais le voir gagner, mais la victoire de Tyler Breeze a été plutôt belle. J'ai bien aimé le finish. C'est assez sympa de voir Tyler Breeze avoir une belle victoire. Il y a du temps de toute façon, il est très jeune à Austin Theory, donc on voit qu'il y a quand même du boulot avec lui pour qu'il soit au niveau. Mmh. Et je pense que voilà, tout doucement, il va faire sa place dans le roster. Je pense que c'est pas terminé pour lui, mais maintenant pour l'instant, il paye un peu son dû.
Et toi, tonton Chris, est-ce que tu kiffes comme ringside à Austin Theory?
Il a un bon physique. Je rejoins ringside sur le fait de la barbe, ça lui va pas du tout. Et c'est le vétéran qui gagne pour le coup. Voilà. Et écoute, Tyler Breeze, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec lui. Je crois qu'en fait, ils sont super emmerdés que la Fashion Police ait craché avec les blessures successives de Fandango. Et je pense que pour eux, c'est un gros problème parce que pour eux, là, c'était une des tag teams qui était chaude à SmackDown. Et qui a tout perdu à cause de la blessure. Ils mettent leur corps en jeu et voilà quoi. Hein. Et Fandango est un catcheur qui commence un peu à être ancien. Donc voilà. Donc écoute, Austin Theory, pour moi, c'est un jeune en développement, c'est un jeune à venir. Il a un bon physique. Je vais le suivre.
Ok, très bien. Donc à suivre, Austin Theory. Parfait. Eh bien, ce qui vient après, c'est encore un match. Hein, les matchs vont s'enchaîner du coup. Contrairement à la semaine dernière, comme on le disait, et là c'est Killian Dain, donc l'ex de Sanity, contre un nouveau venu, TUT Miles, qui ressemble un peu à Cedric Alexander qui aurait passé 2 semaines en confinement, qui serait pas rasé la barbe. Moi j'ai pensé ça, j'ai fait tiens, qu'est-ce qu'il fout là, Alexander? Oula, il a changé, il est un peu plus trash, un peu plus. Ok, mais non, c'est un autre gars.
Il avait pas de vêtements propres.
C'est ça, et après c'est le truc. Alors TUT Miles, certains ont pu le voir dans la Ring of Honor en 2018-2019. Il a rejoint le Performance Center en 2018, et c'est la première fois qu'on le voit à NXT. Il avait servi, il est apparu dans des segments à Raw, dans un match 2-1, un handicap contre Strowman, bref. Quelqu'un qu'on va apprendre à peut-être à découvrir, mais pas ce soir, parce que c'est un match assez court, parce que forcément, Killian Dain le squash assez rapidement avec sa Vader Bomb. Aucune promo, rien, c'est vraiment juste un match, comment dire, assez sens unique, juste pour accumuler de la victoire, et j'en avance aussi au suivant, qui va être un peu du même acabit, puisqu'on aura Cameron Grimes contre Tony Nese. Donc là, Tony Nese est quand même beaucoup plus établi que TUT Miles, mais voilà, Cameron Grimes se débarrassera du premier athlète assez facilement avec son cave-in, hein, son double stomp out of nowhere. Donc là aussi, aucune promo, rien, hein, aucune implication vers qui que ce soit, aucune rivalité, c'est juste effectivement pour faire du catch neuf, ce qui est pas dommage parce qu'en ce moment on est un peu en disette, donc on va pas cracher dessus. Mais qu'est-ce que vous pensez là de Killian Dain et Cameron Grimes, qui semblent du coup être un peu deux personnes qui s'installent dans la mid-card NXT ringside?
Ouais, Killian Dain, moi je suis un peu triste de le voir redescendre comme ça à NXT, traîner comme ça dans la mid-card. Je pensais qu'il y avait quand même plus de potentiel avec ce gaillard-là, qui a quand même un catch, un physique impressionnant.
Pour ceux qui seraient pas très familiers avec Killian Dain, allez regarder le War Games, qui à l'époque avait impliqué Sanity. Et ouais. Killian Dain avait été le MVP du match. Il faisait des trucs complètement hallucinants pour son poids et son gabarit, hein. Un peu pas à l'image d'un Kisly parce qu'il fait des trucs différents, mais il y avait vraiment quelque chose d'assez incroyable. Il avait fait une performance complètement ouf dans ce match. Et c'est vrai que là, depuis, il fait pas grand chose.
Ouais, c'était un gros nom en Angleterre, hein, Big Damo, à l'époque, avant qu'il arrive à la WWE. Et effectivement, c'est un très bon catcheur, donc c'est un petit peu devoir de le voir cantonner comme ça à NXT, sachant que bah, rien qu'avec son physique, ses poils partout, là, sa tête dégueulasse, il a tout pour jouer les gros méchants dans le main roster. Donc
ouais.
Voilà, on espère qu'il remontera quand même à un moment donné.
Est-ce que sa place est peut-être pas du coup plus du côté NXT UK?
Ouais, mais alors ce serait quand même un peu triste pour lui, encore une fois, mais effectivement, il pourrait avoir sa place à NXT UK sans problème pour aller pour un bon Walter Killian Dane. Ce serait
ouais, vrai. Ils ont dans le sens de ce que je dis, c'est que l'Irlande, effectivement, il y a plus de place à côté UK pour pouvoir squatter un peu le top de la carte qu'à NXT ouais. US qui est un peu encombré. Bon, après, voilà, je me fais toujours le Miral Ambar. Pro du gala et du voici catchesque, hein, mais Killian Dane est marié avec Nikki Cross, donc c'est sûr que l'envoyer en Angleterre, ça serait un peu les séparer, et ça, ils aiment pas trop. Mais voilà. Toi, t'en penses quoi, tonton Chris, de Killian Dane?
C'était pour parler juste des deux matchs, c'était deux squash, ouais. Voilà, deux trucs expédiés. Ouais. Juste pour moi, la surprise de voir Tony Nese se faire expédier aussi vite. Je pensais que ça allait être un match qui allait durer un tout petit peu plus, longtemps. Killian Dane, T.U.T. Miles, voilà, il y avait pas photo, voilà, ça a dégagé. Et après le traitement de Killian Dane, je vous rejoins un peu tous les deux. Je l'aimais beaucoup dans Sanity. T'as bien fait de rappeler le War Games. C'est malheureux ce qui est arrivé à ce clan. Et effectivement, il serait certainement mieux à NXT UK. Je pense que ça me paraît assez cohérent ça. Et je pense qu'il serait en capacité en plus à être en feud avec un Walter. Et qu'un Walter Killian Dane pour la ceinture de NXT UK, moi je trouve que ça aurait de la gueule. Mais voilà. Mais cela dit, voilà, deux matchs qui suivent derrière. Et bon, je reste hein, dans ma tristesse du catch sans public. Hein, voilà, vraiment, ça me manque. Et voilà, on est au début de notre review, mais vraiment, hein, voilà, ça confirme ma tristesse là-dessus. Quoi. Le public me manque.
Est-ce que vous voyez un quelconque intérêt à Cameron Grimes?
Moi perso non, mais à la TNA je ne lui trouvais déjà aucun intérêt.
Alors oui, pour ceux qui sauraient pas, Cameron Grimes avant était appelé Trevor Lee, champion X-Division, hein, qui est en cruiserweight à Impact. Ouais, alors est-ce que, d'intérêt, il est bon. Physiquement, niveau athlétique, au niveau du catch qu'il présente, c'était bien, et ils ont fait des très bonnes passes d'armes avec Tony Nese, qui est pas mauvais non plus. Après, son personnage, il doit être encore développé. Je pense que c'est celui qui ressort de leur Breakout Star Tournament, vu le fiasco qu'a été Jordan Miles, leur vainqueur, qui a pété une durite, qui explose en plein vol sur Twitter, etc. Ben, du coup, celui qui reste, qui a un peu de, j'ai l'impression qu'il est dans les petits papiers Triple H des bookers, c'est Cameron Grimes. Après, voilà, ça manque de développement de personnage, hein, tout ça.
Oui.
Il a eu quelques vignettes, mais bon, on a du mal encore. Et, c'est un mec un peu du sud, qui a son chapeau un peu de cow-boy, mais... ouais, c'est un peu entre ouais, un cow-boy et un mec de la White Family, quoi. En fait, son gimmick, j'ai l'impression. Ou un mec qui fait, je sais pas, du cirque.
Ouais. C'est fou. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu le...
ça mais c'est... C'est un peu le même problème. De toute façon, je trouve qu'il y a un petit problème de développement personnel. Toute une génération de lutteurs qui sont montés à NXT ces 6 derniers mois, un peu comme Damien Priest, qui est très bon au micro, qui joue pas mal au micro, qui est bon dans le ring, mais son personnage, il est mal à voir qui c'est, quoi. Enfin, son côté, ouais. je veux la gloire, je veux qu'on vive pour toujours, et c'est un mec qui est là, qui a l'air d'être un peu dark, mais pas trop, qui va dans des clubs, mais on sait pas. Ouais, j'ai du mal à comprendre et à connecté à ce personnage, et Cameron Graham, c'est un peu le même souci, je trouve.
Exactement.
Ouais. Alors, des gens qui, eux, n'ont pas trop de soucis de personnages, au moins pour une partie qui sont impliqués, c'est les belligérantes du prochain match. Puisqu'on a un match pour le qualification au futur match par échelle qu'il y aura pour déterminer qui sera le number one contender de Rhea Ripley ou de Charlotte, puisqu'il y a toujours un match à WrestleMania entre les deux, hein, pour savoir qui sera la championne de NXT. Et donc, le roster féminin d'NXT qui est full pack, qui est chargé comme jamais. Donc, toutes ces lutteuses s'affrontent pour savoir qui sera la first contender. Et donc, on a un match de qualification qui a lieu entre Aliyah et Xia Li, sachant que Aliyah, il y a quelques semaines, a eu le nez pété suite à un gros kick dans la gueule de Xia Li. Donc là, c'est un peu la revanche. Aliyah qui revient toute pimpante. Le titan tron de Xia Li qui se lance. On attend. Elle est toujours pas là. D'un coup, les caméras vont backstage et on voit Xia Li qui est par terre en train de pleurer en se noyant le genou. Plusieurs personnes qui s'affairent autour d'elle. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça. On n'aura pas de réponse. Aliyah est un peu contente dans le ring. Elle voulait se venger, mais elle se dit, bah tiens, du coup, ça veut dire que j'ai un free pass. Hein. J'avance, je suis qualifié gratuitement. Mais le ring annonceur lui dit, ben écoute, effectivement, Xia Li peut pas combattre ce soir, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est bien une personne qui peut combattre et que tu vas devoir affronter. Et là, c'est le retour de ma chouchoute, Io Shirai. J'étais super content d'entendre sa musique.
Moi donc, aussi.
Ah putain. Donc elle était out pendant 2 mois suite à une blessure à la jambe. Elle est revenue en avant sur le planning et c'est une belle surprise parce que j'ai pas eu de spoiler à ce niveau-là, ce qui était cool. Wow. Donc Io Shirai contre Aliyah, il y a pas match évidemment. Aliyah se fait plier suite au moonsault incroyable de Io Shirai. Io Shirai avance donc dans la qualification. Donc tonton Chris, toi aussi t'es un gros fan de Io Shirai.
Mais je kiffe à mort Io Shirai quoi, mais depuis le début. Ah là là, mais quelle catcheuse formidable, mais qu'est-ce que j'espère qu'elle va monter dans le main roster. Je sais qu'elle est un peu fâchée, qu'elle a des difficultés relationnelles à la WWE.
Ah oui?
Ouais,
je suis pas au courant.
Ouais, j'ai lu plusieurs trucs quand même là-dessus. Voilà, il y a quand même, elle a beaucoup de difficultés avec l'absence de son chéri qui est
Ivo.
C'est ça, apparemment psychologiquement, ça l'est pour nous tous en ce moment d'ailleurs, mais. Psychologiquement, pour Io, apparemment, c'est quand même compliqué, quoi. Mais j'adore cette catcheuse, quoi. Et voilà. Et malheureusement, voilà, on a squash là. Donc, bon, la pauvre Aliyah, de toute façon, voilà, elle s'est fait plier en 2-2. Le moonsault totalement magnifique qu'elle maîtrise totalement. Et c'est magnifique de l'avoir exécuté cette prise. J'adore. Voilà, j'ai que ça à dire. Hein, j'adore. Hein, et j'espère qu'elle va gagner le ladder match, quoi.
Ouais, ça serait totalement mérité. Et toi, ringside? Comme Chris, tu aimerais voir Io Shirai monter dans le main roster ou plutôt comme moi, tu aimerais qu'elle reste à NXT parce que tu te dis qu'ils ne sauront pas quoi faire d'elle?
C'est sûr que ça fait peur de la voir monter dans le main roster. Ouais, moi, je serais assez pour la voir avoir un de championne à NXT. Mmh. Ça pourrait être celle qui pourrait faire tomber Rhea Ripley. Maintenant, elle aurait sa place aussi dans le main roster s'il savait quoi foutre des gens comme ça qui montent d'NXT, parce que c'est un petit peu bouché. Il y a déjà Asuka, il y a déjà Kairi Sane dans le même créneau. Donc, on se doute que si elle monte, elle va avoir un peu du mal à se faire sa place. Ça fait pas si longtemps que ça non plus qu'elle est arrivée à NXT. Et elle n'a pas encore eu un run de champion, alors qu'elle le mérite largement, parce que c'est quand même une des meilleures catcheuses du monde, on va dire. Moi je suis très content de la voir revenir également et puis j'espère aussi qu'elle va gagner et puis qu'on la voit un peu plus souvent parce que c'est à peu près ce qu'il y a de mieux hein, dans ce roster de NXT, même s'il y a quand même un bon niveau. Voilà, puis il y avait Aliyah qui était là aussi.
Coucou Aliyah.
Ouais, alors vraiment j'ai du mal, enfin elle aurait pu profiter de son pétage de nez pour revenir packager un peu différente. Un peu à l'image d'un dashing Cody Rhodes qui s'est fait exploser le pif par Rey Mysterio, qui était revenu avec son masque et qui avait donné de la profondeur au personnage. Ben non, Aliyah, elle revient exactement pareil qu'avant, avec aussi peu d'intérêt qu'avant. Enfin, moi, je ne comprends pas ce qu'elle fout là, avec tout le talent qu'ils ont dans le roster féminin.
Quand ça veut pas, ça veut pas.
C'est une jobbeuse, quoi. Jusqu'à la fin de ses jours, je pense.
Ouais, c'est ça. Il pourrait mettre dans le main roster, tu vois, juste pour se faire squasher de temps en temps.
Ça sert à rien, il y a déjà des Lana Bro. Ouais, ils ont ce qu'il faut, quoi. Franchement, ils ont ce qu'il faut. On a une petite vignette ensuite, très courte, qui nous montre les yeux inquiétants de Dexter Lumis, hein, l'ancien Samuel Shaw, donc qui a priori va débuter à NXT TV de manière plus permanente. Hein, donc, moi, j'ai pas trop suivi ce qu'il avait fait ce gars-là, j'ai qu'il avait été à Impact, il avait un gimmick chelou inspiré de Dexter, la série télé, une espèce de meurtrier en série, qu'enlevait les gens qui les stalkaient. Là, il a une grosse moustache, des gros yeux bleus, et il fait peur. Voilà.
Voilà. Voilà. Ouais, à voir, il a déjà eu une petite carrière télé, il y a peut-être quelque chose à sortir de ce mec-là.
Ouais. Oui, il y a un certain background, quoi.
Il y a un background, mais comme on le verra à la fin, il y a déjà son lot de psychopathes en puissance qui débarquent, donc est-ce que Dexter Lemus arrivera à trouver on verra. On retrouve ensuite, pour un des rares segments qui ne sera pas un match dans le ring, c'est un promo. Donc, on a Keith Lee qui débarque et qui parle de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Il se fait interviewer, puisque donc, il y a plein de bordel qui tourne autour de son titre. Il y avait un peu une agression de la part de Damien Priest. On parlait précédemment, qui était venu lors d'un match qui l'avait agressé. Il y avait Dominik Dijakovic qui était là. Keith Lee se retourne, ne voit que Dijakovic, lui met une gorille bombe, pensant que c'était lui qui l'avait agressé, alors que c'était pas le cas, c'était le faux Damien Priest. Donc voilà, il fait un peu le récap de tout ça. Dijakovic qui débarque aussi, qui l'engueule en disant « Hey, t'as enlevé de la bouffe sur l'assiette de ma famille, j'aime pas ça. » Et donc, le troisième larron, Damien Priest qui débarquera pour se foutre de la gueule de façon absolument pas maligne des deux, sortira sa matraque télescopique, mais donc Keith Lee sera prêt pour recevoir, mais Dijakovic poussera Keith Lee pour pouvoir s'occuper de Damien Priest, tout ça par un plan en brawl. Donc voilà, on a toujours ces trois-là qui gravitent autour de la ceinture nord-américaine. Donc la suite logique, ça va être effectivement une triple frite. Hein, pour cette ceinture entre les trois, qu'est-ce que vous voyez vous pour l'avenir de cette ceinture? Est-ce que vous voyez le Limitless One toujours conserver le titre, ou est-ce que Dijakovic ou Damien Priest va être le prochain champion nord-américain?
Ah, j'aimerais bien voir quand même Keith Lee garder la ceinture un peu un certain temps, mais c'est sûr qu'une configuration triple frite, ce serait l'occasion de lui faire perdre sans qu'il se fasse river les épaules au sol, avec un petit Damien Priest bien fourbe. Ça pourrait être l'occasion. Maintenant, j'avoue que c'est un peu du déjà vu tout ça, cette rivalité. Je préférerais voir Keith Lee gagner et puis passer à autre chose. J'aime bien les trois, mais c'est du déjà vu. Et puis là, honnêtement, cette semaine, ça n'a pas fonctionné dans un public vide, cette séquence de brawl avec cascade à la fin. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je suis pas trop investi dans toute cette histoire. Ils ont tous les trois beaucoup de talent. Y a rien à dire. Pour moi, ça, c'est des trois gars qui sont un peu l'avenir de la WWE, qui arriveront, je pense, plus facilement que les autres à monter au main roster et à se faire leur place. Maintenant, j'aimerais bien voir autre chose que de les voir toujours tous les trois s'affronter ensemble, quoi.
Ok. Et toi, tonton?
Je suis d'accord. Bah, moi, le tonton, de toute façon, je vais dire, c'est facile, parce que le tonton, il est fan des trois.
Moi,
j'aime Dijakovic, j'aime Keith Lee et j'aime Damien Priest. J'adore la voix de Damien Priest.
Ouais.
Oui. D'ailleurs, Amiral, mon triple A, fait penser à toi par moment.
Ah.
Et aussi au Kyrias aussi. Parce que le Kyrias, dans le genre voix de Stentor, il se pose là aussi, quoi.
And the name Damien Priest will live for.
Yeah.
I want your woman. I want your car. I want your house, your job, and your burger. Yeah. Give me your beer.
Voilà. Ah, ça, je regrette moi de pas avoir cette. Moi, j'ai une voix assez random en fait, mais moi, je compense par d'autres atouts. Mais vraiment, les timbres de voix comme la tienne ou celle de Kyrias et donc de Damien Priest pour revenir au catch, voilà, m'impressionne et j'aime beaucoup quoi. Donc j'adore ces gars-là. Triple menace, oh oui, triple menace, et victoire de Damien Priest, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, j'y avais pas pensé en fait, c'est en vous écoutant quoi, mais j'y avais pas pensé, et effectivement ça permet de garder clean Keith Lee,
ouais.
et de l'appeler vers d'autres altitudes, et puis les gars, moi je vous dis mon dernier mot là-dessus, Keith Lee versus Adam Cole, pour moi il n'y a pas match, Keith Lee doit démolir Adam Cole. Voilà.
Ah, ça on verra si ça arrive. Chaf, d'autres rêves. Parce que c'est parfaite transition, puisqu'après on a une petite vidéo enregistrée d'Adam Cole, qui lui n'en a rien à foutre du confinement. Hein. Il signe, il emmerde le monde, il est tout sourire avec ses paires de Ray-Ban bleutées, sa ceinture sur l'épaule, il se filme en selfie. Il dit voilà. j'ai pensé à l'altercation avec Vietin Dream. J'avais un peu les boules au début. Puis finalement, je me suis dit, bon, en même temps, je le comprends. C'est de la jalousie, puisque qui c'est qui a été le premier à gagner un match War Games à NXT? C'est Bay Bay. Qui était le premier à être champion américain? C'est Bay Bay. Qui est maintenant le champion NXT, le règne le plus long de l'histoire? C'est Bay Bay. Donc voilà, Vietin Dream, c'est juste un gros jaloux. Donc ouais, il veut se battre contre moi, mais ça va pas être aussi simple. Il va devoir passer au travers de mes poteaux de Nis Petitera qui veulent un morceau de l'expérience. Donc on nous annonce un prochain combat entre Vietin Dream et Bobby Fish. Voilà, et quand Dream perdra, eh bien, il aura été prouvé que Dream est un loser, qu'Adam Cole avait raison, et ça, c'est undisputed. Donc voilà, yeah. Petit segment, moi, je suis jaloux de sa piscine, Adam Cole, je l'aime beaucoup, mais je dis, espèce d'enfoiré, quoi. T'es vraiment salaud de nous faire ça, quoi. Là, on est dans notre appart à regarder les shows debout de vous. Non, on voit une piscine, les glandes. Donc voilà, donc effectivement Dream va être amené à certainement affronter tous les gens de tous les gars de Nice Petit Dera, prouver qu'il mérite son title shot. Je trouve ça pas mal qu'il y ait des petites épreuves comme ça qui sont, même si c'est classique et s'il doit réchauffer, qu'ils sont opposés pour pas qu'il ait un title shot juste parce qu'il le demande, mais que ok, ils doivent battre tous les gars de Nice Petit Dera. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que vous, y a quelqu'un un truc à dire sur cette rivalité Dream et Adam Cole?
Ça faisait un peu Being the Elite, cette promo de Adam Cole.
Ah, ok.
Sinon, pour le reste, ouais, je te rejoins.
C'est retour aux sources, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi Being the Elite. Adam Cole était un web-série des Young Bucks à l'époque où il était, bah, du coup, Ring of Honor et NJPW à l'époque au Bullet Club avec eux.
Ouais.
Donc, du coup, il a l'habitude, hein, c'est peut-être le naturel qui revient au galop. Allez savoir.
C'est ça.
Donc toi, Chris, tu vois Adam Cole gagner contre...
Je vois Adam Cole gagner contre Velvet in Dream.
Ouais.
Je vois pas un match... je vois pas Keith Lee, par exemple, monter dans le main event et se retrouver face à Velvet in Dream. Mm-hmm. Je pense vraiment que Adam Cole va se farcir à un moment ou à un autre le Keith Lee, quoi. Mais j'aime beaucoup Velvet in Dream. Et du coup, je suis un peu perdu avec lui. J'ai l'impression qu'il le balade un peu ces derniers mois et que c'est pas très établi. Est-ce qu'il va au North American Championship, dans le main event, il revient, il repart, il s'est un peu blessé. Il a eu un coup de mou, moi, je trouve, depuis le début de l'année, Velvet in Dream, quoi.
Ouais. Pas sa meilleure, c'est pas sa meilleure QV.
Il est moins bon en promo, il se répète un petit peu, chose qu'il ne faisait absolument pas. Alors que là, il est un petit peu dans la répétition, et donc voilà. Donc écoute, moi je t'avoue que je fais partie de ceux qui sont quand même pressés de voir le règne d'Adam Cole se finir. Et moi, de toute façon, moi je veux voir Keith Lee en haut de l'affiche, quoi. Voilà. Je veux dire, le moment, on en a parlé, j'ai ce sujet là, mais voilà quoi. Le moment Brock Lesnar, Keith Lee au Rumble, voilà, c'est dans le top 3 des moments du Rumble 2020.
Pour que la foule
qui est la foule des pay-per-view WWE réagisse comme ça à l'arrivée du Keith Lee, alors qu'il y avait peut-être, je sais pas, 50-60% de la salle qui savent pas qui c'est, en fait. C'est que le mec, il a un truc, quoi.
Enfin, après, ceci dit, quand même, dans les pay-per-view, Keith Lee, les gens avaient appris à le connaître au niveau du Survivor Series. Il avait eu un gros show avec Roman Reigns, donc c'est pas un inconnu. Puis le mec, il est balèze. Quand il arrive, Brock Lesnar a vachement bien vendu le truc. Il fait « Wow, c'est un gros costaud, t'es un gros costaud, toi, moi aussi !» Du coup, c'est vrai qu'il a, pour le coup, Brock Lesnar a joué le jeu pour vendre l'arrivée de Keith Lee. C'était plutôt bien joué, je crois.
Ouais, un grand Brock Lesnar.
Ouais, parfois il y arrive. Il est bon ce con quand il veut.
Il est bon quand il veut.
Ouais. Un peu comme les deux qui arrivent, 1-2, Oney Lorcan et Danny B, qui arrivent avec le t-shirt le plus dégueulasse que j'ai vu ces dernières années, c'est incroyable. Ah, oh, mais c'est qui le stagiaire en Photoshop qui fait des dizaines de t-shirts WWE? Il était dégueulasse. Ouais, donc les deux font Shenton et Braden Vic, qu'on avait vu la semaine dernière à Raw. Donc voilà, ça semble se confirmer, hein, une équipe entre les deux. Le match sera court, comme celui à Raw, et c'est Oney Lorcan et Eddie Burch, l'équipe établie qui très rapidement arrivera à faire taper pas seulement l'un, mais les deux. Hein. Donc Oney Lorcan et Eddie Burch mettra en prise de soumission leurs deux adversaires qui seront mis du ring, et les deux abandonneront au même moment. Un peu un flash de DIY versus Revival il y a quelques années à TakeOver pour les titres. où c'était un peu la même configuration. Donc, voilà. Sauf que bizarrement, là, ça n'a pas pris aussi, autant. C'était pas autant magistralement exécuté. C'était un peu out of nowhere. Moi, j'ai du mal à accrocher à Lorcan et Birch, Shemtorn et Birdanuvik. Birdanuvik, je sais pas qui c'est. Donc, du coup, c'était un peu un match random. Moi, ça m'intéresse pas vraiment, cette histoire. Est-ce que vous, ça vous intéresse?
Brendan Vick, il a catché Arrow. Il a catché Arrow, il a jobé Arrow la semaine dernière ou un truc comme ça.
L'amiral l'a mentionné en début de.
Excuse-moi, j'avais pas.
Je t'en prie, ouais, avec Shemtorn, hein, donc avec son collègue du soir, avec l'Australien.
Ok, moi, à Titus O'Neill blanc.
Ah, c'est pas mal ça. Mais c'est pas Issy Free, Titus O'Neill blanc, j'ai rien compris, moi, j'ai pas suivi.
Non, je disais, on dirait un Titus O'Neill blanc.
Oui, mais le Titus O'Neill blanc, c'est pas.
C'est Issy Free.
Bah, je sais pas, ça pourrait, hein.
Ça pourrait, ouais, c'est vrai qu'il a.
Ouais, ça pourrait, ouais.
D'ailleurs, lui, il a disparu complètement. Hein. C'est...
Ah bah lui, il est décédé. Ouais.
C'est n'importe quoi. Le mec était revenu à la TNA. Genre, c'est bon, je reviens. Ok, ben non, en fait. Ça marche pas. C'est incroyable. Incroyable.
Bah, bon. Vince McMahon, il aime pas les gros musclés. Hein.
Non.
Il préfère les gars comme Ricochet ou.
Ouais, au Finn Balor. Ouais,
voilà.
C'est son kiff, quoi. les matchs s'enchaînent. Toujours. Qualificateur pour le futur ladder match pour le first contender féminin. Là, c'est Candice LeRae contre Kaden Carter. Match disputé, mais qui sera pas trop long non plus. Hein. On a des matchs rapides. Et donc, c'est bien sûr la Californienne blonde expérimentée Candice LeRae qui gagnera avec son pas sa prise de soumission, mais avec la prise de soumission de son mari, hein, le Gargano Escape. Je trouve ça très logique qu'elle gagne. Même si Kaden Carter, je trouve qu'elle a un bon look, elle est bien packagée. Jeune lutteuse, mais je trouve ça un peu bidon que Candice LeRae gagne par la prise de soumission de son mari. Ouais. Moi, je suis pas fan qu'on mette en avant que ce soit juste la femme de Jean Gargano, quoi. Ça me saoule de voir ça et qu'on prenne pas le temps là aussi de développer son personnage tout simplement.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est nul.
Toi, Chris, est-ce que tu trouves ça nul aussi ou pas? Je t'en fous.
Waouh, je suis un peu en mode OSF, ouais.
Ouais, c'était pas intéressant.
Tu vois, ouais, voilà, c'était pas intéressant. Voilà, ça m'a pas accroché. J'ai attendu que ça passe doucement, tu vois. Et je me suis dit, bon, sachant à ce moment-là dans le show qu'il nous avait annoncé le match qui allait suivre et qui allait être le main event, je t'avoue que là, vraiment, ça a été vraiment un truc que j'ai regardé d'un coin de l'œil. J'étais content que la blonde gagne. Voilà, juste parce que, ouais. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur l'histoire de la reprise du Gargano Escape, là. La pauvre Candice, je pense qu'elle est largement capable techniquement de ne pas être obligée de suivre le moveset de son mari, quoi.
C'est clair. Dans tous les cas, avec ça, on a 5 de nos 6 compétitrices pour le ladder match. Donc on a Candice LeRae, Chelsea Green, Tiganox, Miyahim, Yoshi Rai, et puis on aura la semaine prochaine, je crois, un match avec tout ça qui ont perdu leur match ensemble pour une dernière chance, et celle qui gagnera sera la 6e à rejoindre, sachant que le match au final on le verra donc dans un show NXT télé, puisqu'il est annoncé plutôt dans l'émission que tous les matchs qui auraient dû faire la carte de NXT TakeOver Tampa Bay seront des matchs qui auront lieu mais lors de l'émission, lors du weekly tout simplement,
dans les weekly,
voilà. Entièrement en télétravail.
Et ouais, tout à fait. Donc, par 2K20. Donc, attendez-vous à des glitches, à des bugs.
Excellent.
Ça serait drôle, ça, un espèce de up-down, avec les catcheurs, mais qui jouent leur personnage dans le jeu 2K20.
Un tournoi e-sport, quoi, voilà.
Un changement de ceinture par 2K20, mais waouh! Ça serait novateur. C'est moderne. Très moderne. Bref, on avance doucement à notre main event of the evening, en tout cas en termes de catch, puisqu'on a Matt Riddle, contre Roderick Strong, qui était le gros morceau de catch du soir. Je vais pas vous faire un play-by-play encore une fois, parce que c'est trop long. Au final, eh bien, c'est bien sûr le champion par équipe, Matt Riddle, King of Bro, qui gagnera avec son bro Derek, après toujours une explosion, une explosivité assez incroyable, hein. De toute façon, les deux, là, Matt Riddle et Roderick Strong, on a l'impression qu'ils peuvent passer de la vitesse 1 à la vitesse 12 000 en 2 secondes et demie et catcher pendant des heures, donc ça c'est plutôt cool. Le Origin Bro célébrera sa victoire dans le ring, faisant face à personne, et c'est bien con parce qu'il aurait mieux fait de se retourner puisqu'on voit deux gros Golgoth qui débarquent, qui l'agressent, et puis on aura un mec qui débarquera, Malcolm Bivens, qui est leur manager à ces deux behemoths. Et voilà, il dira à Matrix, écoute, ton partenaire, il est bloqué le bout du monde, hein, puisque Piden, il est a priori en Angleterre. Donc, ça me paraissait le moment parfait pour t'introduire au futur de la Tag Team Division. Donc, c'est Singh et Gurjar qui sont donc finalement un peu le Indian Experience. C'est un peu comme les Vikings, mais pas côté viking, côté indien.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Donc, c'est deux gros balèzes indiens qui ressemblent un peu aux The Tours of Pain, mais avec des choses. Et voilà, c'est le mix. En fait, c'est ça, c'est le mix, la fusion entre les Tours of Pain et les Viking Raiders. Mais voilà. Version Punjabi.
La symbiose.
Donc, ouais. Voilà, moi, je connais absolument pas ces gars-là. Je ne sais pas ce qu'ils valent, je ne sais pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font là, mais ils sont là.
Ils sortent de l'école du Great Kali.
Ah, j'ai des infos, j'ai fait ma petite enquête.
Ah, merci. Éclaire-nous ringside.
Toujours à la, alors, pointe, à la pointe de l'info, à catch-up.
C'est ça, on a fait notre petit travail de reporter. Alors, il y en a un qui s'appelle Saurav Gurjar.
Mm-hmm.
Alors, c'est très difficile, hein, parce qu'ils ont des noms bizarres. Alors, lui, il vient de la branche indienne de la TNA. Il s'appelait la Ring Ka King Project.
La Ring Ka King.
Donc voilà, il a catché là-bas. Il a intégré en 2018 la NXT. Voilà, rien de plus à dire sur ce personnage. Et l'autre, il s'appelle donc Rinku Singh. C'est un ancien joueur de baseball. Et il se trouve que sa carrière a été racontée dans un film qui est sorti en 2014, je crois, chez Disney. Voilà, parce qu'il vient effectivement d'Inde, qui s'est sorti de la misère pour devenir baseballer aux États-Unis. Et ça a été donc raconté dans un film qui s'appelle The Million Dollar Arm.
D'accord.
Million Dollar Arm, le bras qui valait un million de dollars. Voilà, et c'est ce gars-là, donc il a signé aussi en 2018 à NXT.
C'est un peu plus cheap que l'homme qui valait 3 milliards quand même.
Voilà, c'est ça. Bon, je crois pas que c'est sorti en France, hein, parce que c'est un film sur le baseball, ça sort pas toujours chez nous, hein, les films sur le sport.
Ouais, tout le monde.
C'est une production Walt Disney, et sinon, le manager, hein, c'est un ancien qui a bossé à la Ring of Honor et à la Evolve, c'était notamment le manager de Moose, qui travaille actuellement à la TNA. Moose, le grand Black.
Ouais,
Honor. Il s'appelait Stokely Hathaway. Stokely Hathaway, quand il était à la Ring of Honor. Bossé à la MLW, il a un peu fait le tour des fédérations. Puis donc, il a aussi intégré la WWE l'année dernière, sous le nom de Blivens, Mike Blivens, je ne sais pas quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur ces nouveaux arrivants.
Ok.
Très bien, très belle info.
Merci Ringside. Et après, moi, ce que je peux rajouter, c'est que le maquillage, c'est un maquillage traditionnel hindou, hein, que les hommes portent, qui fait référence à une de leurs divinités. Alors, je ne sais plus si c'est Vishnu ou pas. Mais voilà, donc c'est un maquillage traditionnel religieux qu'on fait en Inde. Voilà, donc.
Ça sentait le truc un peu.
Tout à fait. En tout cas, c'est un vrai maquillage que j'ai vu plusieurs fois en Inde, donc c'est pas un truc fantaisiste. C'est vrai.
Est-ce que tu es sorti avec une fille qui était maquillée comme ça?
Non, c'est que les hommes qui portent celui-là.
Ah, c'est que les hommes, d'accord.
Ouais. En tout cas, j'avais vu que les hommes aux États-Unis qui portaient ça. Oh, aux États-Unis en Inde. J'en perds mes mots. Donc ça, c'était le dernier match. Ce que le sort réserve à cette nouvelle équipe qui arrive. Il est temps de la grosse promo du soir, puisqu'on a Triple H qui arrive et qui est là pour parler de la rivalité entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, puisque ça suffit, ça fait 5 ans. Tout ce qui devait être dit à ce sujet a été dit, sauf qu'on va quand même en parler. Hein.
Ouais.
A déjà été fait, mais on va quand même faire un truc. Donc rapidement, Ciampa arrive, Gargano arrive, et donc du coup Triple H dira, voilà, c'est grâce à lui que les deux sont pas virés, si ça ne tenait que à Regal, William Regal, eh bien Gargano et Ciampa auraient déjà été renvoyés d'NXT parce que c'est pas possible ce qu'ils ont fait il y a deux semaines. Enfin, c'est le bordel. On n'en peut plus. Triple H dit qu'il comprend les grosses rivalités puisqu'il en a eu lui-même avec Shawn Michaels, donc lui et Shawn Michaels comprennent ce que ça fait de, hein, d'avoir une rivalité qui va au-delà de toute considération, toute ceinture, etc. Donc Gargano dira veut que tout le monde réalise à quel point Ciampa est le monstre qu'il est. Moi, je le vois en tant qu'un gros monstre, vous ne comprenez pas. Gargano, lui, sera plutôt mis dans la position d'un heel qui fait de la grosse merde, pour pas dire les choses telles qu'elles sont. Et donc Triple H dira, voilà, ok, en fait, vous avez besoin de rien, vous avez pas besoin de public, parce que je veux que votre affrontement il soit dans la plus grosse scène possible, The Grandest Stage of Them All. Donc il fait allusion à WrestleMania pendant 10 secondes. On se dit, oh, il y aura un Gargano Ciampa à WrestleMania. Bon, ben non, ça sert à rien parce que WrestleMania, ça sera tout pourri. Donc autant faire un truc original. Donc Ciampa et Gargano diront, ben non, on a besoin de rien, on a besoin de personne. On a juste besoin d'un immeuble vide avec juste un ring. Et puis c'est tout. Donc Triple H dira, ok, attendez. Si je vous trouve un immeuble avec rien et personne dedans, combien de temps il vous faut? Maintenant, c'est possible, Johnny? Johnny fait, non, j'ai besoin de 2 semaines. Ok, bon, dans 2 semaines, je vous trouve un immeuble vide avec un ring dedans. Et mec, Triple H, ça s'appelle le Performance Center. Hein. Je sais pas ce que c'est. Bon, en ce moment, il n'y a pas vraiment
dedans. Il a un autre immeuble où il y a un ring dedans.
En face, il y a des bureaux, ils sont tous... Voilà. Donc tout ça pour nous dire que va y avoir la derdéder entre Gargano et Ciampa dans un immeuble qui sera pas le Performance Center. Il y aura peut-être vaguement un ring pour un enjeu que je comprends pas tellement bien, puisque Triple H leur dira attention, c'est la derdéder et quoi qu'il se passe, c'est fini. Mais on sait pas s'il y a une cipu, est-ce que c'est fini, il y en a un qui se casse, le perdant se casse d'NXT, on sait pas. C'est un peu flou. Moi, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Et c'est le moment où on voit le Titan Tron qui s'anime, et on voit des images qu'on avait vues plusieurs fois depuis quelques semaines, avec des corbeaux qui mangent des crânes, des corps, une horloge folle, des croix, une ambiance apocalyptique avec une voix chelou, et le visage enfin de celui qu'on savait qui était derrière ça, Killer Cross. Donc un psychopathe qui nous arrive à TNA, qui est l'intention instant gala, le copain de Scarlett Bordeaux, qui est le titre en suge de la TNA Impact jusqu'à NXT. Donc Killer Cross arrive, mais qu'est-ce qu'il vient foutre dans ce merdier? C'est la question que je te pose ringside, et puis bien sûr tout ton Chris. Pourquoi Killer Cross, pour son arrivée, décide de se mettre son nez dans cette histoire rivalité complètement toxique entre Gargano et Ciampa?
Ouais, ça n'a aucun sens. Bon, ça ressemble quand même à une réponse à la All Elite Wrestling de la semaine dernière avec l'arrivée de Matt Hardy en fin d'émission.
Ouais, ça c'est clair.
Je vois guère que ça. Sinon, j'ai rien compris à la promo qu'ils ont faite là avec Triple H qui est en train d'engueuler ses deux gosses. Les gars, c'est bon, vous avez été trop loin, arrêtez de vous battre, machin. On est quand même dans une fédération de catch, on est quand même là pour que les gens se foutent sur la gueule, et on a Triple H qui nous dit calmer le jeu à ces deux superstars. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'était acteur studio. Ils sont gentils, mais c'est pareil, quand il n'y a pas de public, c'était pas la meilleure interprétation du monde. Ça n'avait pas de sens. Il y a ce Killer Cross qui débarque à la fin, sans débarquer. Pour moi, c'est un fait complet ce main event. Et puis, ça ne met pas en valeur Gargano et Ciampa qui ont l'air tout petits à côté de Triple H qui est en train de leur faire la morale comme si c'était leur daron. Il ne se rend pas compte de l'impact qu'il a, Triple H, quand il débarque comme ça et qu'il pète à la monde ses superstars. Hein. Il faut éviter de faire ça parce que tu ruines un an de construction. Donc, pour moi, c'est un ratage complet ce main event.
Et toi, ton Chris,
pour ratage moi, complet ou... Ouais, pour moi, c'était excessivement. Ils nous ont balancé de la catchphrase qu'on a depuis des semaines et des semaines. Donc, on la connaît, l'histoire entre Ciampa et Gargano. On sait où ça en est. J'avais l'impression de revivre encore le même truc encore et encore et encore. Ça m'a pas emballé. J'ai eu cette sensation qu'il disait n'importe quoi, que ça meublait et que effectivement Triple H se présentait en espèce de père protecteur, voilà, Alors que là, ouais, on s'en fout, en fait, quoi. Nous, c'est annoncez-nous un match, annoncez-nous une stipulation. Dites-nous comment ils vont régler ça à la bagarre.
Exactement, c'est la bagarre du mercredi.
Voilà, c'est la baston du mercredi, là. On n'est pas des perles. Ouais. Bon, voilà. Et après l'arrivée de Killer Cross, alors moi, j'aime bien Killer Cross. Par contre, effectivement, pourquoi dans la rivalité Gargano-Ciampa ? Qu'est-ce que ça vient foutre dans le bousin ?
C'est ça. En plus, le show s'arrête brutalement.
Ouais.
Ils terminent, font du noir. Tu fais... incompréhensible. Je sais pas ce qu'ils ont voulu nous raconter avec toute cette histoire.
Donc, voilà. Écoute, voilà mon sens sur cette fin de NXT.
Ouais. Surtout que les stipus du match en plus sont pas clairs. La stipulation finale, on sait pas qu'est-ce qu'il y a en jeu. On est vraiment à côté là.
Exactement. On est à côté. Bah, allons voir à côté, messieurs.
Ouais. Allons voir à côté.
Donc la semaine dernière, hein, on était contents de plein de bonnes idées de mettre leurs catcheurs tout le long du show sur les abords du ring comme c'était le public. Bah, cette semaine, c'est plus le cas, malheureusement. Il y a plus personne. Hein. Ils sont dans la même configuration que NXT au Performance Center pour la simple et bonne raison qu'en une semaine, les mesures ont été beaucoup plus durcies aux États-Unis et que maintenant, ils ont une interdiction, une limite de 10 personnes dans une même salle, même une grande salle. Donc, du coup, ils pouvaient pas être plus que ce qu'ils étaient dans l'arène, même si c'était une arène à ciel ouvert. Donc, du coup, excite les catcheurs aux abords du ring. Maintenant, on aura vu ce soir les catcheurs, certains catcheurs, 4-5, hein, qui vont tourner tout le long de la soirée, vont être dans une salle, une espèce de loge, et il y aura une caméra qui les montrera de temps en temps, en train de parier, en train d'encourager les heels ou les faces. Parfois, ils mettront la source audio, hein, on entendra les gens encourager Kenny Omega durant son match. Donc voilà, ils ont fait un truc-là pour essayer de mettre un peu plus d'ambiance dans l'arène, mais clairement, ça fait pas le job comme la semaine dernière, loin de s'en faut. On aura aussi appris que le Blood and Guts, hein, le War Games sauce Hollywood Wrestling, qui aurait dû avoir lieu cette semaine, n'aura pas lieu. D'ailleurs, il y a un échange assez rigolo sur Twitter à ce sujet-là, quand ils ont annoncé ça par Twitter Hollywood Wrestling la semaine dernière. Il y a des fans qui ont commencé un peu à se plaindre, et Chris Jericho qui leur a répondu en disant « Écoutez, c'est simple, on est interdit de se rassembler à 10 ou plus ». Faites vos matchs, Blood and Guts, c'est 5 personnes contre 5 personnes et un arbitre plus des caméramans. Bah, ça fait plus de 10, donc on peut pas le faire, quoi. Stupid idiot. Donc voilà, Blood and Guts repoussé à plus tard. On aura ce gros match, mais on aura quand même des matchs. Hein, le Wrestling continue à essayer de faire le boulot. Là, d'ailleurs, on voit les gens qui essaient de faire multi-casquette, puisqu'on aura au commentaire ce soir Tony Schiavone, mais aussi Cody Rhodes et Kenny Omega, qui eux deux auront des matchs dans la soirée. Donc d'ailleurs Cody commence, hein, il commence à la tête des commentateurs, puis il s'en va, on lance la musique, il ressort par le tunnel pour arriver dans le ring puisqu'il a un combat ce soir en ouverture de match de show contre Jimmy Havoc. Donc Jimmy Havoc, moi j'aime bien son packaging, son look, sa musique, son délire. Donc Jimmy Havoc, on le voit pas trop à Dynamite, on le voit surtout à Dark. Dark, pour ceux qui connaîtraient pas, Dark c'est un peu le main event comme pour la WWE, mais côté All Elite Wrestling. Chaque semaine ils mettent sur YouTube gratuitement 45-50 minutes de catch. Donc c'est des matchs qui sont tournés mais qui sont pas diffusés sur la TNT, sur la chaîne américaine. Et donc Jimmy Havoc est un peu quelqu'un qui est en train de dominer Dark en ce moment, puisqu'il a 4 victoires je crois d'affilée. Donc un match contre Cody Rhodes qui sera un peu disputé, même si bien sûr l'issue ne fait pas de doute, c'est Cody qui gagnera, mais pas seulement avec un seul crossroads, c'est avec 2 crossroads, hein, une espèce d'agressivité. D'ailleurs Kenny Omega fera bien le job aux commentaires en disant mais Cody est agressif, faut qu'il se calme, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, donc Cody qui gagne, hein, contre Jimmy Havoc avant de revenir à la table des commentateurs. Il reviendra donc serrer la main de Tony Schiavone alors qu'il sera encore transpirant, et c'est pas très geste barrière tout ça, hein.
Ouais.
Mais c'est pas grave. Donc voilà, petite intro sur ce Dynamite, nouvelle disposition par rapport à la semaine dernière, Cody contre Jimmy Havoc, ringside, ton avis sur ce début de show?
Ouais, heureusement qu'ils ont mis quand même les petits passages avec les personnes dans les catcheurs dans les coulisses, parce qu'effectivement ça permettait un petit peu de ponctuer certaines séquences. Alors c'est sûr que c'était moins efficace que la semaine dernière, mais je trouve que c'était quand même judicieux ce truc-là. Après moi je suis largement moins client de Jimmy Havoc. Je pense qu'il devrait le garder en En attraction, pour faire des matchs hardcore, parce que là, clairement, je trouve qu'il est pas bon quand il s'agit de catcher de manière classique. Mm-hmm. Et le match de ce soir, il a pas fait exception à la règle, donc j'ai pas trouvé ça terrible, quoi.
Ouais.
Il est très mauvais. Moi, j'aime pas du tout. Moi, je le dis, il est très mauvais, quoi.
Donc, oh là, carrément.
Ah ouais, moi, vraiment, il y a pas de crédibilité auprès de moi de la part de Jimmy Abbott.
Mmh. Ah, il fait quand même une belle carrière pour un Anglais. Arriver aussi haut, c'est pas mal ce qu'il fait quand même. Après, c'est sûr que là, en plus, il a l'air d'être pété de partout un petit peu. En catch classique, c'est chaud quand même.
Je le respecte en tant que catcheur professionnel qui mène sa carrière et tout ça. Mmh. Moi, je n'aime pas ce qu'il est dans le ring.
T'aimes pas le bonhomme, son catch.
Il ne m'intéresse pas, j'aime pas son catch, j'aime pas son personnage. Ouais. Voilà, il ne m'intéresse pas. Cody gagne, voilà, c'est très bien, et puis basta.
Ouais, surtout qu'en plus avec le manque de public.
Ah oui.
Défaut des petits botches et des petites approximations, hein, on est moins distrait par ce qui se passe, il y a moins de plans de forcément de réaction du public qui réagit à ce qui se passe, on voit toutes les failles, tous les petits gestes qui sont pas tip top. C'est...
Ouais, ça faisait très fake hein, quand même le match.
Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Bon, suite à ça, on a quand même une petite vidéo qui est donc un peu le manager, on peut l'appeler comme ça, du Murder Hawk qui cherche des poux à Cody. Donc Jason X Roberts, donc c'est une vidéo qui a été tournée où il est, on l'imagine, sur une rocking chair près d'un feu en extérieur. Lui non plus n'est pas confiné et donc il retise Cody en disant on fait 2 semaines qu'on essaie de t'attirer sur le fait que Lance Archer est là. On veut un match, on veut juste un match avec toi, César. Et puis tu nous boudes. Alors, franchement, peut-être que vous n'avez pas regardé ce qu'il a fait dans sa carrière, Lance Archer. Ah, en fait, si, je comprends. Vous avez vu ce qu'il fait, en fait, et vous avez peur. Ouais, je comprends. Moi, je suis toujours en train de payer toutes les factures de santé de tous les gars qui l'explosent en entraînement, et il y en a pour des milliers de dollars. Bah, écoute, fais quelque chose, hein. Je sais pas, vois avec ta femme, demande-lui la permission s'il faut. C'est peut-être ta Cléopâtre, c'est peut-être ta Monica Lewinsky, je sais pas. Mais, voilà, amène qui tu veux, amène ta femme, amène Arn Anderson, amène ton frère, mais il faut un match à Lance Archer. Cody donc qui répondra directement hein, à côté de Tony Schiavone. J'ai bien aimé la promo de Cody Rhodes qui fera le mec vraiment un peu énervé qui vous dit OK, tu crois que c'est comment qu'il faut que tu arrives comme ça, tu te pointes et t'as un match contre moi. Peut-être qu'il faut un match contre moi, mais peut-être que la chaîne, l'échelle Dynamite, elle commence pas par moi. Donc on va faire ça. La semaine prochaine, t'as un match contre quelqu'un, et puis t'as qu'à engranger des victoires. Et si tu arrives à faire à remporter du coup des victoires suffisantes, peut-être que t'auras un match contre moi. Donc voilà. A priori, on nous annonce dans cette promo, cette réaction, le début dans le ring de Lance Archer next week. Suite à ça, on aura une autre petite vignette tournée aussi en noir et blanc, comme on a l'habitude depuis plusieurs semaines, donc de Darby Allin, pendant que mes compagnons sont en train de mourir en s'étouffant dans leur micro. Donc Darby Allin qui a un match contre Superbad et Kip Sabian. Eh bien, Darby lui il voit rien qui est de Superbad à propos de Kip Sabian. C'est que des mots. Lui, il a l'habitude de rencontrer des gens qui sont vraiment Superbad. On le voit, il a des masques de tous les membres de l'Inner Circle qui posent sur une table au fur et à mesure, et puis il mettra feu à cette table. Donc voilà, Aline dit que Sabian va payer pour les péchés de l'Inner Circle. Et s'ensuit derrière un match. Donc Kip Sabian qui sera flanqué de Penelope Ford, qui pendant le match jouera bien sûr à perfection son rôle de distraction et qui chopera les jambes de Darby Allin pour l'empêcher de s'envoler sur les cordes. Mais ça ne suffira pas. Darby Allin qui gagnera avec son last super, donc c'est une espèce de Gibson leg lock, donc il n'aura pas utilisé le coffin drop, hein, donc on montre que Darby Allin a d'autres finishers à son arc que son plongeon de la mort cimetière version tombeau de en aveugle. Donc voilà, victoire de Darby Allin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces promos, vidéos, que ce soit de Jason X Roberts, de Darby Allin et du match qu'on a suivi, ringside?
Ah, Jason X Roberts, magnifique, magnifique. Il rajoute aussi qu'à l'ouverture au lancement de la All Elite Wrestling, il était chez lui, il attendait un coup de fil, personne ne l'a appelé.
Oui.
alors qu'on avait dit là où les Dead Vesting, on va donner ce qu'ils veulent, ce que veulent les fans, et que, mm-hmm. que lui c'est le plus grand, un des plus grands cerveaux de l'histoire du catch.
Ouais.
Ça c'est pas vrai avant qu'il se détruise lui-même. Mais moi j'ai trouvé cette promo excellente. J'adore sa manière de gérer la caméra, ce qu'il raconte, je trouve que c'est assez profond. Ouais, ça sonne juste. J'ai hâte de voir Lance Archer s'attaquer à Cody. Ça c'était vraiment vraiment un des points forts de l'émission, hein. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est ce Jack le Snake Roberts là, qui est de retour avec son poulain. Ça, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Pour le reste, Darby Allin et Kip Sabian, j'en ai rien à foutre, l'un comme l'autre.
Au moins, ça mérite d'être clair.
C'est voilà.
Ça. Ringside, il ne mêle jamais chez moi.
On voilà. Y va pas par quatre chemins.
Ah non, pas du tout.
Donc voilà, c'était long. Voilà, Darby Allin, je crois que c'est le mec qui a le moveset le plus idiot que j'ai jamais vu. Et,
ça.
Kip Sabian, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas à quoi ça sert, hein, Kip Sabian. Voilà, le match était long. C'était pas bien, j'ai pas aimé.
Ok. Et toi, ouais. T'es donc Chris
Moi, j'aime beaucoup Penelope Ford. Je l'ai demandé en mariage. Mais elle n'a pas répondu, mais c'est normal parce qu'elle l'a pas encore entendu. C'est pas encore passé à l'antenne.
Ah, bah oui.
Mais à part ça, voilà, Kip Sabian ne m'intéresse pas. Darby Allin est complètement dingue. Il fait n'importe quoi sur le ring. Je trouve ce garçon dangereux. J'avais déjà hurlé lors de la review du Fighter Fest où j'avais été complètement abasourdi par son attitude ce jour-là.
Ah oui, t'avais crié à Aline
pour qu'elle. Ah, Aline. Et voilà. Ah, mais ouais, elle est belle là. La perche était là et elle était. Et voilà, donc écoute, vraiment zéro intérêt encore une fois sur cet affrontement. Penelope Ford en revanche. Et par contre, attends, j'allais oublier un truc hyper important.
Oui.
Jake. Alors, je ne pourrais jamais dire de mal de Jake, de toute façon. Donc, de toute manière, c'est impossible pour moi.
Trop de respect pour le bonhomme.
Ah ouais, trop de respect pour le bonhomme. Et je suis même admiratif. De le retrouver dans un programme de wrestling moderne en 2020, qu'il soit là, qu'il arrive à faire de la promo, moi je dis respect Jake the Snake. Voilà.
Oh, c'est clair, il est impérial depuis qu'il est arrivé, et moi je salue les esprits créatifs. Je suis pas fan de tout ce qu'ils font, mais quand ils font revenir des vieilles légendes, etc., parfois ils leur font faire des trucs vraiment cool et intéressants, comme là avec Jake. Et c'est plutôt rare le cas à la WWE, donc ils jouent leur partition parfaitement avec lui. C'est vraiment très cool.
Ouais,
vraiment gros respect. Et par contre, je suis pas d'accord avec vous. Moi, Darby, j'aime bien. Franchement, je pense que dans le bon environnement, sinon il doit repenser son moveset. Il doit arrêter de faire n'importe quoi. Mais honnêtement, dans un bon environnement avec, je dirais, des gens plus vétérans, comme des Jericho, des Matt Hardy maintenant, qui vont pouvoir lui dire, écoute mec, c'est vachement bien ce que tu fais, t'es super athlétique, t'es ultra rapide, mais pense à ta carrière, pense à ta santé, arrête de faire n'importe quoi. Je pense que ce mec, s'il est drivé par des bons encadrants, d'ici 5 ans, il sera un catcheur vraiment qui peut être assez incroyable, je pense. Moi j'ai des bons espoirs sur l'avenir pour Darby Allin. Vraiment, il est super jeune. Hein. Ouais, donc il est tout fougueux, il est tout. Ah, il faut le canaliser et il y a des room leaders à l'hôtel qui pourront effectivement un peu canaliser toute cette fougue.
Ouais, écoute, dans un trio en lucha libre, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit dysfonctionnel et sur le cas d'Arby Allin, c'est moi,
j'assume, voilà. J'assume complètement dysfonctionnalité 3000%.
Ouais, non, mais si c'est vrai que s'il se trouve un mentor et un mec qui lui explique un peu comment il faut se conduire, il peut aller loin, mais.
Je sais pas, un Matt Hardy me semble complètement.
Ouais, un Matt Hardy dans l'état où il est actuellement.
Non, mais ouais, il peut le dire. Moi, j'ai niqué ma santé. C'était cool sur le moment, mais maintenant, je suis même plus capable de faire un twist of fate, quoi. Donc, calme-toi, Coco. Pense au long terme. Tu vas pas tenir à distance. Donc. Voilà. Je pense que ça peut être de bons conseils. On verra bien ce que l'avenir lui réserve. En tout cas, ce que l'avenir réserve à Chico Adams, vous ne savez pas qui c'est, eh bien, vous ne saurez pas, puisque c'est le 4 heures de Jake Hager qui le squashera en 30 secondes, un truc comme ça. Mmh. Voilà, donc bon, rien à dire spécifiquement, si ce n'est que post-match, eh bien John Moxley débarque et fera une petite agression sur Jack Swagger, enfin Jack Hager, lui placera un paradigm shift, mais Hager se relèvera de suite et essaiera de mettre le champion dans le Uncle Lock. Bien sûr, Moxley s'en sépare, mais le point important que nous révèlent les commentateurs, c'est que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un se remettre aussi rapidement du paradigm shift. Donc, forcément, on nous annonce hein, une collision entre ces deux bonhommes autour du titre bientôt, et donc on place le côté balèze de Jack Hager qui, malgré un paradigm shift, peut encore s'avérer redoutable et lui briser la cheville. Donc voilà, petit retour du champion qui, a priori, est maintenant clear. C'est ce qu'il nous dira hein, backstage. Hein, il dira que c'est bon. Hein. Il faut bien regarder dans son blind spot. Voilà, je suis de retour, je suis clear, donc on va s'affronter bientôt.
Donc il a fait un caméo dans le backstage de WWE.
Ouais. John
Moxley s'est incrusté dans l'image. Là, ils étaient en discussion par Skype. Hein, comment elle s'appelle
René
Young, il y avait Booker T, je ne sais plus lequel. Mmh. Il est venu avec le petit chien de René Young qui aboyait là, c'est-à-dire qui s'occupait de la situation. Un petit passage comme ça, furtif dans l'émission, c'était marrant.
Il y a
c'est Xavier Woods, je crois.
Xavier Woods et Booker T, et Xavier Woods était mort de rien. Je me disais, oh putain, il a osé quoi. Ouais. Il a osé le faire. Donc ouais, donc Hager contre Moxie, c'est certainement le prochain match du champion. On n'a pas grand chose je pense à en dire, mais on aura beaucoup plus de trucs à dire à ce qui se passe juste après. Comme vous l'avez suivi la semaine dernière, l'exalté, le chef du Dark Order a été révélé, c'est Brodie, donc effectivement un ancien membre de la White Family, Luke Harper à la WWE. Et donc là on a un segment vidéo filmé où il est en costard cravate avec donc John Silver et Alex Reynolds, hein, donc deux membres du Dark Order, et ils sont là en train de bouffer, en train de manger. En fait, non, il y a que lui qui mange, mais chacun ils ont une assiette devant eux avec un gros morceau de viande bien rouge. Et donc Brody Lee, il est en train de découper son steak, il mange en même temps, il dit voilà, maintenant que je suis arrivé, c'est fini, il y a le New Dark Order, donc on fait les choses différemment. Vous allez voir, c'est plus pareil. Il y a les deux autres qui tirent un peu la gueule, qui savent pas trop à quelle sauce vous êtes mangé. Ils ne mangent pas, ils regardent leur assiette, puis il y en a un qui commence à... C'est John Silver hein, qui commence à prendre sa fourchette, son couteau, à se découper un morceau de steak parce qu'il a faim. Et là, Brody Lee s'arrête, part en sucette, il s'énerve. Attends, mais tu crois que j'ai l'air d'avoir terminé là? Mais personne mange tant que j'ai pas terminé. Allez, casse-toi. Donc l'autre, il s'en va. Aucun respect, quoi, le gars, hein, il mange alors
non, mais
que...
Ouais, non, mais le mec... Non, mais...
Ça se fait pas, quoi. Non, ça se fait pas.
En France, là, mais il se fait lyncher sur la place publique.
Boum. Voilà.
Fais pas chier un mec qui mange, quoi.
Mais c'est ça. Donc, il reste plus que Alex Reynolds. Putain, il est pas commode, nouveau boss. Et puis, donc, Brody Lee continue. Et puis là, Alex Reynolds, il éternue. Et là, Brody Lee, il repète un plomb. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, là? T'éternues? Mais dégage, casse-toi. Et donc, il le vire de la salle. What the fuck, ce segment, mais ce segment, en fait, il a une raison très concrète d'exister. C'est qu'en fait, le gimmick à la All Elite Wrestling de Brody Lee, c'est Vince McMahon. Ah, puisque ouais. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y a de multiples témoignages, notamment d'une source proche de Vince McMahon, puisque c'est sa fille, Stephanie McMahon, qui justement à un moment est interviewée dans je sais plus quel média, puisqu'il y a de nombreuses rumeurs qui disent que Vince ne supporte pas les gens qui éternuent. Et elle
Je connais ça.
Voilà. Et donc elle a attesté en disant oui, effectivement, c'est un truc qui le met hors de lui, et qu'il y a des gens lors des réunions parfois d'équipe WWE dans les bureaux qui se retiennent pendant des plombs d'éternuer parce qu'ils savent que Vince va leur en faire chier des ronds de chapeau s'ils éternuent. Et le fait de manger, c'est aussi en évocation d'un dîner qu'ils ont eu dans un steakhouse il y a quelques années à WWE. Et il y avait un truc, j'ai plus de détails, etc. Mais pareil, Vince avait tapé un genre de mini-scène de crise d'autorité. Bref. En plus, quand tu sais ça, que tu regardes la manière dont un peu dans les tons bleus et compagnie, comme porte souvent Vince McMahon, tout ce segment n'était qu'un gros shot à Vince McMahon. La semaine dernière, Brody l'avait déjà fait en s'adressant à Christopher Daniels en lui disant que c'était pas le seul vieux ringard qui ne comprend plus rien au catch et ne pas croire en lui. Déjà, beau jab à Vince McMahon. Là, cette semaine, gros jab aussi. Ok. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses, Ringside, de ce gimmick de Brody Lee qui singe Vince McMahon dans les segments?
C'est la plus mauvaise imitation de Vince McMahon que j'ai jamais vue, mais dans l'interprétation. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt original, c'est plutôt finement joué. Je sais que, ouais, on pourrait avoir tendance à se dire qu'il faut pas qu'il construise toute la fédération en opposition à la WWE avec que des filles. Mais en même temps, je trouve ça plus intéressant que s'ils étaient partis sur un truc de grand chaman, de grande prêtresse au chaboubou là, du Dark Order.
Ouais.
Je me dis que s'ils continuent dans la même veine à travailler un peu ce personnage qui serait un décalque de Vince McMahon, ça peut quand même donner des trucs sympas. Donc, je suis curieux de voir s'ils continuent sur la lancée. C'est plutôt intriguant. Je trouve que c'est au moins ça a le mérite d'être original. Ça prend un contre-pied ce à quoi je m'attendais. Donc je trouve ça plutôt ouais. Sympa.
Surtout que, avant de passer la parole à Chris, Chal, hein, qui marche là, se fait exploser très rapidement. Et à la fin, du coup, un des creepers qui accompagnait dans le ring Brody Lee va sortir un masque et le lâcher sur Cutie Marshall. Donc une offre de rejoindre Dark Order. Là aussi, on peut y voir un parallèle avec Vince McMahon. Qui signe tous les catcheurs qu'il peut signer pour éviter que les catcheurs aillent.
Mais oui.
Ouais, c'est pas faux.
Mais oui, non, mais là, franchement, tu vois, là, tu m'as carrément éclairé, Là, tu vois, là, voilà. En fait, moi, j'ai pas fait, sur l'instant, j'ai pas fait le raccord, quoi.
Ouais.
J'étais plutôt sur le truc de, effectivement, on l'empêche de manger, c'est quoi ce bordel, quoi.
Ouais.
J'ai pas fait le rapprochement avec effectivement la couleur des costumes. pardon. J'ai pas fait ce rapprochement là. Et là en fait le fait que tu l'énonces, bah ouais, du coup ça c'est éclairant et ouais, ça me paraît effectivement une excellente piste.
Donc, après voilà, hein, c'est vraiment de la référence.
Et surtout sur la référence sur la référence du fait que effectivement Vince McMahon fait signer tous les mecs qui passent à proximité et là Brody Lee fait exactement ça dans ce segment.
Ouais, c'est ça, et vraiment l'histoire de l'éternuement, c'est ça qui m'a mis les puces à l'oreille. Du coup, je suis allé chercher est-ce qu'il y avait une histoire de steak ou de bouffe avec Vince McMahon, et je l'ai trouvé effectivement, mais ça reste quand même des clins d'œil sur des histoires qu'il y a que les gens comme nous qui passionnent de catch. Et qui vont lire Leader Sheet qui le savent. Le grand public qui regarde TNT ne comprend pas à quoi on fait référence là. Donc après, il va falloir qu'ils transforment ça en une histoire qui, sans connaître les coulisses du catch et du monde du catch, fasse sens, parce que sinon ça sera
Bah là, cette semaine, ça reste compréhensible, je pense, pour quelqu'un qui connaît pas les dessous. Ça reste un mec qui pète un câble. On voit que c'est pas vraiment le leader qu'ils attendaient, et puis que le mec est méchant.
C'est un peu bon.
D'ailleurs, j'ai bien aimé ce qu'il disait, le New Dark Order.
Ouais.
NDO. Est-ce que c'est une référence au New World Order, NWO? Je sais pas. Parce que la semaine prochaine, ils vont débarquer avec une musique badass et des t-shirts blancs et noirs. On sait pas, avec marqué NDO, peut-être. Hein. Les mecs, ils sont capables de le faire. Hein.
Bah oui, on s'en plus à ça après.
À faire des tous sweet dans. À faire des tous sweet. Hey yo. Bref, voilà. On verra bien ce qui se passera avec la suite. Donc voilà, Cutie Marshall plus tard qui rejoindra le locker room hein, des losers, puisqu'il y aura aussi Kip Sabian après son match, après avoir passé son match, qui rejoindra le locker room des losers. Il y aura Shane Spears. On aura vu quand même Chris Jericho qui a fait une petite incursion hein, dans le locker room pendant le match de Cody. Suite à ça,
Shane Spears, il a pas besoin de perdre pour rejoindre le locker room.
Bah, il est de base là-bas. Hein.
Voilà.
Il passera un message, hein, il aura un panneau marqué « Je cherche toujours un panneau ». C'est rigolo. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on aura donc une petite vidéo qui a été tournée par le correspondant californien de la Hollywood Wrestling, à savoir Vanguard One, le drone de Matt Hardy, qui ira filmer donc la maison de Nick Jackson, qui est en train de faire son entraînement, et on aura un indicateur sur son scanner qui nous dira que Nick est a priori guéri à 61%.
Ouais.
Voilà.
Formidable.
Sympa.
Très bien. Bon, voilà, c'est, je pense que là aussi, pareil, c'est pour les fans de Vanguard.
Ah ouais, si tu connais pas.
Ah ouais, là c'est voilà. Perdu.
On est sur la référence cryptique, hein, franchement. Mmh. Nous, on connaît, mais. Qui zappe sur TNT, qui voit cette scène de steak avec Brody Lee, puis après le drone qui vient. Et qu'est-ce que c'est que ce programme, quoi? Bref. On passe ensuite à un match plus sérieux, du moins un peu plus dense en termes de catch et de temps, et d'enjeu, puisque donc c'est Sammy Guevara, le Spanish God, contre Kenny Omega pour la ceinture, et pas la ceinture de titre, pas de ceinture par équipe, Elite Wrestling, puisque c'est un match en simple, mais pour la seconde ceinture de Kenny Omega, puisque Kenny Omega est toujours triple A Mega Champion, donc une ceinture mexicaine, hein, et ça fait friser les messages de notre gros fan luchador Tonton Chris, hein, puisque donc effectivement la Elite Wrestling, pour ceux qui ne sauraient pas, a un accord avec la AAA, la plus grosse fédé mexicaine, et Kenny Omega est leur champion depuis qu'il a récupéré la ceinture sur Rey Fénix des Lucha Bros. Donc voilà, un match plutôt sérieux en termes de durée. Moi j'aime beaucoup dans les jeunes, hein, j'aime beaucoup Darby Lynn et j'aime beaucoup Sammy Guevara, que je trouve un potentiel assez ouf. Kenny Omega lui rend bien, évidemment. Par contre, Omega sera bien sûr bien trop adroit et virtuose pour le jeune espagnol godlike, et donc avec bien sûr ses combinaisons V-Trigger et One Wing Angel, Kenny Omega garde le championnat. On a une petite séquence rigolote où Sammy Guevara ira près des chaises qui sont vides au bord du ring, et il aura dessiné Chris Jericho en mettant mon ami, et il fera un hug à la caricature de Chris Jericho. Il y aura aussi un capitaine de Star Trek qui sera dessiné, on sait pas pourquoi, mais Cody apparemment est un gros fan de Star Trek, donc du coup avec Tony Schiavone, il parle de Star Trek pendant 5 minutes. What the fuck. Et il y aura un dessin de Brandy Rose, puisque ça fait quelques semaines que Sammy Guevara essaie de draguer Brandy et fera un gros palo dégueulasse plein de langues et de bave sur le dessin. Heureusement ça va, ça c'est geste barrière respecté. Donc gros match de haute voltige, ou match vraiment dispensable à ringside.
Alors moi j'aime pas les jeunes.
Ah c'est ça.
Je ne sais pas, merde.
Ouais, c'est notre.
Ça manque de respect. C'est, je comprends.
Ouais, c'est notre. Point.
Ouais, je comprends pas comment Kenny Omega peut mettre 20 minutes. Sammy Guevara. Donc après c'est bon, et voilà, ils font leur catch, hein, c'est sympa, c'est spot fest.
Non, mais ils ont joué le fait que Kenny Omega sort d'une blessure à la main, Sammy Guevara blessure à sa main de multiples fois jusqu'à la mordre aussi deux ou trois reprises, donc ce qui explique que Kenny Omega avait déjà, on va dire, un poignet dans le plâtre, hein, c'est qu'à le dire. Donc il était pas à 100% Kenny.
Voilà, allez, on va mettre ça là-dessus.
Eh ouais.
et puis voilà, ouais, il y avait l'histoire avec les cartons. Alors on ne sait pas, c'est quel capitaine de Star Trek qui l'a dessiné. J'avoue, je reste perplexe là-dessus.
Je crois que c'est celui des films. Hein,
Je ne sais plus comment il est. Chris Pine,
c'est ça ? Ouais, Chris Pine, ouais.
Voilà. Moi, je dis Chris Pine.
Ah, ok.
Et ben ouais, non, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai pas réussi à rentrer dans le match.
Bah, très bien.
Je vois les limites de Kenny Omega un peu plus chaque semaine, ça m'attriste. Oh.
Et toi, tonton Chris, match pour la triple A Mega Champion.
Ah ouais, mais alors là, j'ai absolument pas adhéré. Alors là, j'étais totalement mécontent de voir Kenny Omega défendre le titre de la triple A dans un weekly random de Dynamite à AEW, juste pour mettre en avant un Sammy Guevara que j'ai trouvé mauvais. Et qui ne mérite pas ce putain de title shot.
Oh.
Je veux dire, allez checker, bordel. Au nom de quoi Sammy Guevara mérite un title shot?
C'est un dieu espagnol.
Ah ouais, mais non,
ce mec.
Là, ça marche.
C'est la ceinture triple A.
Señor,
¿qué tal? Si.
Je n'ai rien contre la présence de Sammy Guevara dans l'Inner Circle, et je trouve qu'il est plutôt divertissant.
Mais c'est pas à toi de le dire qu'il va dans l'Union 5 à l'eau passe, bien cru.
Et par contre, rien à foutre qu'il soit dans un title shot pour le titre de Mega Champion, quoi.
J'avoue, c'est sorti un peu de nulle part, c'est pour mettre
complètement de out of nowhere, tu veux dire.
Bah, en même temps, excuse-moi, mais out of nowhere, what the fuck, la triple credo. si tu nous as déjà regardé, c'est que du what the fuck en permanence.
Ah mais oui, oui, ouais. Mais ça c'est la lucha libre mexicaine, ça. Non. Tu veux, c'est un art de vivre là-bas.
Ah ouais. Si vous ne connaissez pas la triple mania, c'est de luchador mexicain au monde. Le meilleur moyen pour regarder ça, c'est regarder Bocha Mania. Les numéros consacrés à Triple Mania, c'est, je pense, le truc qui me fait le plus mourir de rire chaque année. C'est ça, quoi. Parce qu'il y a des trucs incroyables qui se passent là-bas. C'est insensé, quoi. Tu dis que Darby Allin, il fait n'importe quoi. Mais... Non. C'est un mec qui a la tête sur les épaules comparé à ces gars. Putain, non, sérieusement, quoi.
Triple Mania 2018, je crois que c'est. Je vous le conseille avec Vampiro et Matt Striker en commentaire, là. C'était du délire du début à la fin. Le show de catch le plus fou que j'ai jamais vu, je crois.
Je le conseille chaudement.
Et croyez Ringside, il en a vu des shows de catch.
Ah, fous, j'en ai vu des trucs. Hein.
Ouais. Bon, c'est pas tout ça. C'est le moment d'arriver au main event, le gros morceau, le gros segment. C'est un segment vraiment où là, ça va chier les bulles carrées puisque c'est le champion, Chris Jericho, qui débarque et qui veut s'adresser à Matt Hardy, qui est arrivé la semaine dernière. Pour en tant que renfort de The Elite qui était avec un homme à terre, hein, puisque Nick Jackson est guéri à 61%, mais pas suffisamment pour participer au Blood and Guts qui aura lieu, on sait pas quand maintenant. Peut-être que du coup, il sera guéri d'ici là, mais c'est pas grave. C'est Matt Hardy qui est là, donc Chris Jericho, qui connaît bien Matt Hardy depuis longtemps, hein, donc il vient donner un peu son avis là-dessus. Donc il dira que voilà, il connaît Matt Hardy depuis très longtemps, et là, bah, il y a Vanguard One qui va arriver. Et oui, le drone qui écrit Jericho va faire une promo sur Vanguard One. Il va trash-talker Vanguard One.
Ouais, voilà, il va trash-talker un drone. Il faut quand
Il veut dire, t'es une piece of shit. Tes points de vue politiques, je les partage pas. Et il part comme ça en sucette. Et c'était juste génial. Enfin, moi, j'ai adoré ce passage où vraiment du grand cri Jericho, n'importe quoi. Et à la fin, ça finira par. Hey, Vanguard One, je te propose de rejoindre l'Inner Circle.
Voilà, il embauche.
Ouais. Il embauche, hein, même un drone. Il dira tous ces drones super modèles d'Instagram qui seront autour de toi, rejoins-moi, c'est génial. Bref, il essaie de vendre le concept Inner Circle à Vanguard One. Vanguard One s'en va. Chris Jericho qui l'insulte de plus belle. Et là arrivera du coup Matt Hardy qui prend le relais, qui est encore dans les hauts gradins avec sa musique pleine de piano. Et là on aura un plan où on voit la caméra qui filme Chris Jericho de dos, on voit les gradins, Matt Hardy qui est tout en haut, et puis d'un coup Matt Hardy réapparaît dans l'écran un peu plus bas, puis encore un peu plus bas. Bref, il se téléporte. Mais c'était fait genre comme quand t'avais des vieilles caméras, c'était pas numérique, hein, c'était de la cassette vidéo où tu mets sur pause et tu fais bon vas-y bouge de rang plus t'as Matt Hardy qui court, qui descend plus de rang plus bas, ok bouge plus, c'est bon. Et en fait, vu que c'est fait comme ça, on voit Chris Jericho qui bouge un petit peu.
Ouais.
Il est pas exactement immobile pendant tout le temps que ça lui prend bien 5-6 minutes le temps qu'il aille de tout en haut tout en bas. Bref, c'était super cheapos. Et j'ai adoré Kenny Omega commentateur qui a vendu le truc genre oh, mais c'est les portes, c'est des pouvoirs psychiques, c'est psycho power, enfin c'est c'était un peu naze et drôle à la fois, ce qui fait tout le charme un peu de Matt Hardy, ce qu'il fait, hein, pour ceux qui aiment le Broken Universe, c'est un peu ça, hein, c'est drôle, génial et naze à la fois.
Bref, vous pouvez le faire à la maison, hein, des effets spéciaux comme ça peut être fait maison.
Ah, ça peut être fait maison, moi je peux vous le dire, hein. Puis il y a des moyens de faire ça pour que ça soit plus beau, que personne bouge et qui sont pas. Mais non, ils l'ont fait à l'autre. Très bien. Et donc là, on a une longue promo, une longue discussion entre les deux, où on voit qu'ils ont des vagues bullet points, puisqu'à un moment donné, ça commence un peu à tourner en rond tout ça. L'essentiel de ça, c'est que Jericho essaie de convaincre Matt Hardy de ne pas maintenir son alliance avec The Elite. Dire voilà, tu seras bien mieux à l'Inner Circle, je te connais depuis plus de 25 ans, t'as changé 15 fois de look, maintenant t'as une mèche rouge, avant t'étais blonde machin, tes habits gothiques, etc. si tu veux, pas de problème, mais je sais, au fond de toi t'es toujours le même, Matt Hardy, arrête, fais pas ça, c'est que des nazes chez les élites. Matt Hardy dira la même chose, hein, t'as beau te réinventer, toujours le même au fond de toi, et je vois un peu le la tyrannie que tu fais avec tes potes d'Inner Circle, et pour moi, Elite Wrestling, c'est la liberté, et je ne permettrai pas que cette liberté soit pas fouée comme vous le faites. On a un peu l'impression d'avoir un dialogue XOR versus Power Rangers, je sais pas quoi, là. C'est un peu chelou. Et donc, Matardi dira, ben voilà, tu seras obsolete, toi, l'Inner Circle. Donc, du coup, ça finit par Matardi qui met un coup de poing à Chris Jericho. Chris Jericho qui le vendra en allant au sol, en disant, waouh, ok, t'es balèze. Tu as mis le champion à terre avec un seul coup de poing. Mais regarde, moi aussi, je sais faire de la magie. Abracadabra, Matardi, tu vas te faire botter le cul. Et là, Sammy Guevara, cet infâme, comme dirait Tonton Chris, débarque, met un gros coup à Matardi. Et c'est ce qu'il faut pour que Kenny Omega et Cody, qui étaient au commentaire, se lèvent, prennent des chaises, tabassent en chaise Jericho et Sammy Guevara qui battront retraite sous le titre en tronc. Et là, les flammes qui n'avaient pas été allumées depuis le début du show, les flammes commencent à brûler tout à gauche et puis aussi tout à droite. Et on voit que c'est Matardi qui fait du delete et qui contrôle les flammes. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses dans ce segment. Il y avait un moment rigolo où Chris Jericho demandera à Matardi, alors tu es Elite ou Inner Circle? Matardi qui fait delete. Non, pas delete, Elite au Millennium Circle. Delete. Bref, il y avait du gag, il y avait du montage chip, il y avait des pouvoirs psychiques, il y avait tout ce qu'on veut. Ringside, est-ce que tu adhères ou pas? Est-ce que c'est du génie en barre, ou est-ce que là, non, vraiment, ça va beaucoup trop loin dans l'amateurisme?
Ah, c'est difficile de pas adhérer. Moi, je suis plutôt client de Chris Jericho. Je suis plutôt client de Matardi en Broken Matt. Le problème, c'est que c'était un peu trop long. Clairement, il y avait deux ou trois promos en une, on va dire, ou trois, quatre promos même en une, trois, quatre segments en un. Du coup, ça tirait un peu en longueur et au bout d'un moment, c'était un petit peu long à suivre. Maintenant, ça s'est terminé quand même sur une bonne claque dans la gueule et puis un coup de poing dans la face, histoire de repartir sur un peu de punch. Il y a eu l'arrivée de Omega et Cody. Mais alors, Omega avec la chaise, il a fait n'importe quoi. C'était pas terrible.
Ouais, non. C'était des mauvais
shots. Ouais, c'était pas terrible. Après, ils ont lancé le truc des flammes, façon Kane. C'était assez rigolo. C'est dommage, franchement, c'est dommage que c'était trop long, parce que ça aurait été, sinon ça aurait été bien cool. C'est vraiment la longueur, je trouve, qui fait un peu couler le truc, mais je suis toujours client de Chris Jericho qui raconte n'importe quoi, qui tape la causette avec le Vanguard One, là, avec le drone. Ouais. Et puis que Matardi, ça, il joue toujours dans le truc de série Z avec ses pouvoirs magiques, ses déplacements, ça, c'est plutôt rigolo quand même.
Ok, donc plutôt ouais, client Inside. Et toi, Chris?
C'est ça, c'est nanardesque, quoi.
Ouais, on peut pas se plaindre de ça quand on l'a réclamé depuis des années.
C'est la série Z, ouais, voilà. Et puis finalement, après son run à la WWE, là, tout le monde demandait ça pendant son passage, et puis il l'a pas fait, ou il l'a fait un plus ou moins un petit peu avec Bray Wyatt et avec Randy Orton. Ça a été les seuls moments où il a eu droit un peu à ce lâchage. Mais globalement, il était beaucoup trop bridé à la WWE, donc il était impossible pour lui de pouvoir en faire plus, en montrer plus. Alors oui, c'est de la série Z, moi je le prends comme ça, voilà. Et là, effectivement, c'était un peu longuet. Chris Jericho, il a un peu tourné en rond, heureusement qu'il est bon au micro, Jericho, et que voilà, et ben, il est capable de parler avec un Claude. Voilà, c'est quand même à noter. Et écoute, on va voir ce que ça va donner. Moi, le seul truc voilà qui m'a un petit peu gêné à la fin, ça a été l'histoire du delete.
Ouais, ça c'était pas top.
Et parce que même voilà, delete, et puis au bout d'un moment, même Chris Jericho, en fait, c'est lui qui a un peu mis fin au truc, quoi. On s'entend que là, tout d'un coup, je crois qu'ils se sont un peu rappelés. Ah ouais, merde, il y a personne dans les tribunes. Mmh. Et tu vois, ça tombait à plat, quoi. Mais là, on va en parler pour la conclusion, mais voilà. Donc voilà mon avis sur ce segment final de la AEW.
Ok, très bien. Bah écoutez, comme le dit Giscard, Pierre Quiroz.
Comment? J'ai pas compris.
Ça a coupé.
Comme dirait Giscard, Pierre qui roule vaut mieux que deux tu l'auras.
Ah oui.
C'est le moment de conclusion du show. Ouais, c'est très logique, hein, it makes sense. Je vais pas vous demander votre top, votre flop, votre note, mais je vais vous demander à chacun quel est le show qui pour vous a gagné cette baston de ce mercredi 25 mars. Est-ce que c'est NXT? Est-ce que c'est Dynamite? Ringside.
C'est serré. Je vais quand même donner mon aval à NXT parce que je me suis moins ennuyé devant NXT que devant la All Elite Wrestling, même si on part un peu sur une mauvaise touche avec NXT. Le main event était moins était raté, alors que celui de IW était plutôt réussi. Mais bon, le gros de l'émission, j'ai préféré ce qui s'est passé à NXT. Les matchs étaient meilleurs. Okay. Il y a eu pas mal d'arrivées, des choses qui se sont passées. Là, l'Elite Wrestling, la plupart des matchs, je les ai pas aimés. Et il s'est pas passé grand chose. Donc, je donne la victoire à NXT.
Très bien. Un pour NXT. Chris.
Eh bien, moi, si j'avais dû donner une note, de toute façon, j'aurais mis un 2 à la E-Dub et j'aurais mis un 2,5 à NXT. Donc, je donne la victoire à NXT sur cette baston du mercredi.
Ok, très bien.
Pourquoi juste parce que il y avait pas mal de catcheurs qui, bah, pas de chance pour eux, hein, mais qui sont passés à la IW que je n'apprécie pas vraiment. J'ai trouvé que ça avait été un peu mal ficelé, le main event trop long et voilà. Et comme ils nous avaient finalement fait un truc vraiment bien la semaine dernière, du coup, bah, fatalement, j'ai été quand même bien, bien déçu par rapport à ce que tout le déroulement. Et je mets NXT, je lui mets que la moyenne de toute façon. Et parce que largement la moyenne, parce qu'il y a Yoshi Rai.
Ok.
voilà.
Très bien. Bah, écoutez, hein, le match est plié, hein, vous avez tous les deux voté NXT. Globalement, je suis d'accord, et même si globalement, effectivement, en termes de pure qualité catchesque, du côté d'NXT, c'était plus intéressant et mieux fait qu'à AEW, je trouvais quand même que Dynamite avait un meilleur équilibre entre des segments enregistrés et des matchs, là où NXT, c'était que du match.
C'est vrai.
Un match qui manquait un peu de, manquait un peu d'intérêt, ou du moins de raison, et promo final qui était entre Triple H et Gary Champa qui n'était pas folichonne, donc je trouvais qu'il y avait un équilibre un peu plus sympa, il y avait un peu plus à boire et à manger du côté de AEW. Mais dans tout cas, bah, cette semaine, la baston du mercredi, vous avez voté, c'est NXT qui a gagné. Voilà
ouais.
Pour cet épisode du 25
bien,
mars.
C'est bien, du coup,
finalement, l'autopromo, hein, ceux qui nous rejoindraient et qui ne seraient pas catch-up. Je suis confus. Il faut vraiment que je prenne l'apéro, là. Il est bientôt 18h. Ringside a commencé depuis le début, lui. Le salaud. Donc, vous pouvez nous suivre en vidéo sur YouTube et en audio partout. Vous pouvez trouver des podcasts, SoundCloud, Ocha, Deezer, Apple, Google Podcasts, Spotify. Bref, abonnez-vous pour être au courant de tout ce qu'on sort comme émission, puisqu'on review tous les shows, WWE, les weeklies, les pay-per-view, et comme depuis la semaine dernière, et ce numéro-là, la baston du mercredi avec All Elite et NXT. Bref, likez-nous, mettez des commentaires, des pouces, rejoignez-nous sur Discord, on a un chan avec plein de sous-catégories et plein de gens, c'est cool, vous voulez pas du catch à la cool avec des gens sympas, viendez nous rejoindre. Join Catch Up. Moi, je vous remercie particulièrement, eh bien, Tonton Chris et Ringside pour cette baston de toute beauté.
De rien, merci à toi, Amiral.
Et
merci
puis,
hosting de qualité.
Eh oui, toujours, mais surtout, lavez-vous bien les mains avant de faire vos prises de catch et après aussi. Bisous tout le monde, salut et passez une excellente semaine pleine de catch. À plus.
Ciao, bye bye.
Salut Amiral, salut Ringside, salut peuple de catcheurs! Mandal, Châtaigne, Ponche et Powerbomb sont au programme à la baston du mercredi. Mais je ne l'ai pas passé.